Bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Ni chaud ni froid. On reçoit Jean-François Daville.
Bonjour Angelo.
Et la chanteuse Biastre, bonjour.
Bonjour Angelo.
Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Jean-François Daville, on va commencer par vous, bonsoir. Vous venez de nous parler de votre livre et pourtant je l'ai fait. Tout d'abord, comment vous vous définirez ?
Ben, je suis un homme de terrain, un homme écorché à vif et surtout un homme, je dirais, sur qui la valeur principale est l'honnêteté.
Dans ce livre, vous vous livrez à cœur ouvert.
Ah oui, là je me mets complètement à nu, hein, j'ai l'habitude de le dire. Si vous voulez vraiment me connaître, le mieux est de lire cette biographie, hein, puisque je me mets à nu pour vous. En tout cas pour ceux qui veulent me connaître, vraiment le but de ce livre c'était que vous puissiez me connaître de ma plus tendre enfance, tendre ou moins tendre à quelques moments et jusqu'à maintenant par mon parcours aussi professionnel, familial. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous faire découvrir ma vie.
Vous parlez d'honnêteté, mais c'est rare maintenant les gens honnêtes.
Ah oui, je crois que ça se perd dans ce monde actuel. L'honnêteté n'est plus forcément la priorité de tous. On est dans une société qui devient quand même assez égoïste. Je suis un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai mes valeurs et mes valeurs m'ont toujours suivi de mon enfance jusqu'à maintenant.
Béatrice, vous pensez quoi de l'honnêteté ?
Ah, merci de me demander. Je pense que c'est une valeur en effet qui se perd aussi et que c'est très difficile. Ça demande énormément de courage. Et avoir du courage de confronter l'entourage, l'opinion publique, ça se perd, le courage se perd. Et je pense que c'est cette valeur-là qui va derrière l'honnêteté qui est la plus en perdition parce que tout simplement les gens ont peur de vivre des choses malaisantes pour pouvoir faire gage de valeur et de beauté.
Vous êtes Jean-François, vous êtes né à Briey, vous habitez à Jarny, on peut dire que c'est votre ville de cœur ?
Ah oui, tout à fait, ma ville de cœur, comme je dis dans mon livre, c'est Jarny. Pourquoi ? Alors que j'ai connu plein d'autres villes, j'ai eu un petit moment de ma vie sur la Côte d'Azur. Mais Jarny, je trouve que c'est une ville différente. En tout cas, on le sait que plus on remonte dans le nord du pays, hein, de la France, plus on est chaleureux, et encore plus en Belgique pour vous. Mais voilà, Jarny, je trouve qu'il y a encore un petit peu quelque chose, une étincelle qui reste, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui me plaît, et c'est pourquoi j'ai décidé de poser mes valises à Jarny définitivement.
Léa, vous connaissez Jarny ?
Pas du tout, je suis très curieuse.
Jean-François, comme il vient de le dire, il vient de Jarny, c'est en France, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui, je suis originaire de France, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. C'est une petite commune de un peu moins de 8000 habitants en Meurthe-et-Moselle, entre Metz et Verdun.
Ah, ça je connais bien, je suis retournée là-bas. C'est joli, j'imagine que ça doit être très convivial de vivre dans une petite commune comme ça.
C'est ça, où il y a encore quelques valeurs. D'autres fois, j'ai envie de dire, où le temps, je dis tout le temps qu'à Jarny, l'horloge tourne moins vite qu'ailleurs, et c'est ce qui me plaît.
Ah, c'est beau. En plus, j'ai une chanson qui parle de ça, et justement, j'en avais composé une dans un hameau où j'habitais aussi en Belgique, dans le Condro, qui s'appelle Sainte-Fontaine. Et je suis d'accord avec vous, dans ces petits hameaux comme ça, on parle encore, en fait.
Tout à fait. On est attaché aux vraies valeurs. L'amitié, bien manger, et travailler juste ce qu'il le faut.
Non. Et vous, Béatrice, vos valeurs, qu'est-ce que c'est quand on parle de valeurs ?
Alors, on parle d'honnêteté, c'est ce que j'essaie tous les jours aussi. Clairement, ça demande aussi d'avoir des pincettes de temps en temps pour ne pas blesser la sensibilité. Ce que je pense, c'est le courage de se relever quoi qu'il arrive, surtout quand on tombe. De pouvoir dépasser les choses difficiles et les transformer en énergie créatrice, constructrice. C'est là tout le projet Bilastre, en fait.
Ça va avec votre histoire, Jean-François Daville.
Oui.
Se relever.
Ah, tout à
On
fait.
En parlera après, mais...
Oui.
US The Litter à découvrir.
Ah, c'est bien, tu nous as mis ensemble, Angelo. Pour ça. Hein.
Vous avez vécu la faim, le froid. D'abord, vous venez d'une famille modeste. Pouvez-vous expliquer un peu? On se rend vite compte qu'en étant petit garçon, que vos parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et avec vos yeux de petit enfant, qu'est-ce que vous pensez?
Oui, alors, modeste, même dans mon livre, je dis pauvre, très pauvre, hein, et c'est pas une critique, certains pourront croire que je critique ma famille, que je la renie, mais pas du tout, il faut appeler un chat, je suis quelqu'un de pragmatique, du terrain, factuel, et je ne peux pas décrire autrement mon début de vie, il a été très difficile par rapport à certains, par rapport à la moyenne. Ce que je décris dans ce livre, c'est que je dis vraiment tout. J'ai connu les frigos vides, j'ai connu les hivers sans chauffage, j'ai connu la rue, j'ai même dormi dans ma voiture pendant quelques nuits, voire quelques semaines. Voilà, moi, si vous voulez, je veux pas aujourd'hui, par mon parcours d'entrepreneur qui a réussi, oublier de là où je viens. Mais justement, ça m'a permis de savoir où j'allais et pourquoi j'y allais, pour ne plus jamais reconnaître ces moments de galère difficiles où chacun dans la vie a pu avoir ces galères-là. Mais moi, en fait, ils me suivent tous les jours et je ne veux jamais y retourner.
Béat, une réponse par rapport à ça?
Ah oui, absolument, mais je pense que c'est quand on a vécu le manque qu'on se rend compte de la richesse des petites choses et que la plupart des gens veulent toujours plus et se rendent pas compte que déjà avoir un frigo, c'est énorme. Moi, je suis contente tous les jours quand mon frigo est rempli, quand j'ai un peu de chaleur. Et j'ai envie de rebondir, c'est Roberto Benigni qui avait gagné un Oscar à l'époque, qui avait dit « Ah, je veux remercier mes parents qui m'ont donné le meilleur cadeau du monde, la pauvreté. » Et je trouve ça trop beau.
Ouais, c'est une belle citation, ça, je la retiendrai.
Oui.
Jean-François Daville, à quel âge prenez-vous conscience de ça?
Dès mon plus jeune âge, j'ai envie de dire. Quand la mémoire commence à être active chez un enfant, je pense aux alentours des 7 ans, j'ai compris qu'on était un peu différents, hein, si je puis dire, même si le milieu qui m'entourait était assez modeste, mais j'ai pris conscience quand j'ai commencé à travailler avec mon père sur le chantier, que j'ai vu que la vie était dure, il était éreinté, et je me suis juré dans ma petite tête de faire mieux et de faire autrement. Et c'est là que cette niaque, hein, je puis dire, qui me suit tous les jours, et j'ai la même en me levant tous les matins, a vraiment pris tout son sens. Et voilà, c'est un petit peu tous les matins en me levant, je me rends compte de la chance que j'ai et je fais tout pour pas retourner dans cette précarité, si je puis dire.
Biastre, une question?
Ah, c'est beau, c'est beau d'entendre ça et c'est tellement important. Et la plupart des gens, en fait, essayent de fuir un trop bas d'enfance en prenant toujours plus. Et c'est important de savoir, en fait, ce qu'on a traversé, en fait. La plupart des gens se mentent à eux-mêmes aussi. Et donc, c'est beau pour moi d'entendre ça. Merci.
Ben oui, c'est je rebondis, hein, c'est, voilà, je me mens pas à moi-même. Certaines personnes qui n'ont pas connu mon passé, par exemple, pourraient juger et de dire ben celui-là, il a de la chance, mais voilà, comme vous le dites, moi, je sais d'où je viens et j'oublie pas, surtout. J'oublie pas et je renie rien.
Votre père est rongé par l'alcool, c'est votre mère qui fait tout pour vous?
Oui, ben, ma mère a tenu un petit peu la tour de Pise qui penchait, hein, si je puis dire. Elle a fait ce qu'elle a pu dans sa vie, elle était auxiliaire de vie avec un salaire moins élevé que le SMIC, puisqu'elle arrivait tout juste au SMIC, pendant que mon père était pourtant très travailleur, mais avait un démon, comme je le dis, puisque c'est ce qui l'a rongé et c'est ce qui l'a tué. Il est mort de ça, de cette maladie, l'alcoolisme, hein, on peut dire ce qui est. Voilà, donc j'en ai souffert malgré moi, et j'ai dû faire avec, et ça aussi, je me suis juré que dans ma vie future, eh ben, j'écarterai tous ces comportements, et aujourd'hui j'ai réussi pleinement. Je suis pour ma part quelqu'un qui ne boit pas du tout d'alcool parce que j'ai vu les dégâts que ça fait. Voilà.
Et c'est là qu'il y a eu ce déclic par rapport à vos ambitions, envie de réussir?
Oui, depuis tout jeune, hein, je savais que j'allais faire différemment. Je savais que j'allais bâtir, donc bâtir avec mes mains, parce que je suis passionné par les chantiers, par la maçonnerie.
Vous êtes maçon à la base?
Oui, j'ai travaillé depuis mon plus jeune âge avec mon père dans la maçonnerie, qui lui était maçon ouvrier. Et puis, j'en ai fait mon métier, mais je savais que j'allais faire mieux, même si quand j'étais jeune, on se moquait de moi quand je disais que je voulais être maçon. Eh bien, je savais que j'allais bâtir un empire avec mes mains et avec ma tête par mes capacités à créer des entreprises. Et ça, depuis vraiment tout jeune. Et puis, dans un petit coin de la tête, j'avais dans la tête cette envie de faire de la politique, entre guillemets. Mais j'aime pas ce mot, moi, politique. C'est plutôt construire des projets. Voilà. Donc, je voulais être maire aussi depuis ce plus jeune âge.
Biastre, un mot ?
Oui, c'est intéressant. Je pense que l'art est politique aussi. Personnellement, j'y vois un point de vue éthique dans ce que je fais, mais en effet, tout rejoint le politique et c'est important pour simplement en fait faire prendre conscience de s'intéresser à ce qui se passe politiquement, puisque c'est un lien entre humains et surtout à l'époque actuelle aussi compliquée, tout le monde devrait s'investir un peu plus à regarder ce qui se passe et à participer.
Jean-François David, vous avez un frère et une sœur, et à cette époque, vous en discutez avec eux de votre situation, quelle était leur pensée de ce que vous vivez à l'époque ?
Non, alors, même si on était assez complices autrefois entre frères et sœurs, mais il y avait, moi, ce côté-là, cette petite pensée que je savais que j'étais différent, mais encore une fois, différent, pas dans le sens où je renie ma famille, différent dans le sens où je voulais faire différemment, je voyais que les autres... En tout cas, mon entourage, ma famille voulait faire comme les autres. Et moi, je savais que j'allais faire différemment. Donc, voilà, j'étais un petit garçon, on va dire, dans un monde normal, mais qui savait qu'il allait faire de quelque chose... Pas de grandes choses, parce que ça serait prétentieux de dire « je savais depuis tout le temps que j'allais faire des grandes choses ». Il y a pas longtemps, je savais pas que j'avais réalisé des grandes choses. En fait, on réalise quand on se tourne vers le passé et qu'on se dit « ah, je l'ai fait ». Et d'où le titre de mon livre « Et pourtant, je l'ai fait ». Voilà.
Gastre ?
C'est beau de regarder derrière soi et de se dire qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, parce que je pense que voilà, l'époque fait que beaucoup de gens sont insatisfaits en permanence. Et moi, personnellement aussi, en tant qu'artiste, je pense qu'on se remet tout le temps en question, on n'arrête pas de progresser et on peut être très mécontent parfois. Alors qu'en fait, quand on regarde ce qu'on a fait, en effet, c'est beau et c'est ce qui nous donne la force de continuer. Et il faut continuer quoi qu'il arrive, pas non plus se mirer dans un passé qui n'existe plus.
Vous n'avez pas la même passion qu'un petit garçon normal à cette époque ?
Ah non, j'étais différent pendant que d'autres aimaient le centre aéré, aller à l'école, apprendre des leçons. Moi qui avais ces capacités, hein, j'étais pas mauvais à l'école quand je travaillais, mais j'ai refusé entre guillemets de travailler à l'école, bien sûr, parce que moi depuis tout jeune, ce qui m'intéressait c'était de bâtir du petit muret au fond du jardin, de la cabane, que j'ai construit des cabanes qui ressemblaient plutôt à des maisons à l'âge de 10 ans. Et j'étais pressé de finir l'école pour pouvoir commencer la vie active. Et ça, voilà, ça créait un petit peu des choses différentes. Pendant que d'autres étaient à la maison en train de jouer au début des consoles, puisque j'ai connu les premières consoles, déjà mes parents n'avaient pas les moyens d'en acheter. Et ben moi, j'étais plutôt dans la rue, dans les bois, en train de découvrir ce que c'est le monde du réel, sentir la terre, les arbres. Voilà, c'était ça mon monde à moi.
C'était beaucoup d'or.
Tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Dans la neige, je construisais des igloos. Je ramassais, je me rappelle, toute la neige de tout mon quartier. Et pendant des heures, des 15-20 heures par jour, des fois, je me levais de bonne heure pour aller construire un igloo. Et déjà là, les voisins me disaient, mais qu'est-ce que c'est ce petit gamin là ? Voilà, il est fou.
Biastre ?
Ah, je reconnais cette passion. je pense que les gens qui sont passionnés paraissent fous en fait dans la société. C'est ça qui est beau. Et bravo d'avoir suivi notre passion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les enfuient en fait et qui se plient et finalement qui ne poursuivent pas leurs rêves. Pour moi, c'est ça le fil conducteur aussi d'une vie. C'est la passion et de construire tous les jours un tout petit peu plus. Je pense que c'est une très belle métaphore du fait de construire son rêve. C'est que brique par brique, tous les jours, on construit jusqu'à ce que cette maison se bâtisse.
Vous travaillez dur avec votre père. C'est lui qui vous a inculqué la notion du travail.
Oui, alors je peux reprocher beaucoup de choses à mon père dans le passé. Aujourd'hui, je lui ai pardonné avec le temps. Quand on vieillit, j'ai 35 ans, je suis père de famille. Il est décédé il y a quelques années, et jusqu'à sa mort, je lui en ai voulu énormément. Et aujourd'hui, je m'en veux de lui en avoir voulu, vous voyez. Mais parce que il m'a inculqué vraiment la notion du travail, dans le sens où il était très bosseur, très maniaque, même si le soir, en rentrant à la maison ou en allant au bar, il avait ses démons qui le rongeaient petit à petit. J'ai toujours été élevé à la dure avec lui au chantier. On n'était pas là pour rigoler, j'avais pas le droit de rigoler. On était là pour bosser, point.
Il était strict.
Oui, strict sans être forcément dur. Mais voilà, c'était à sa façon. Et vous voyez, quand on regarde avec un œil d'adolescent son père, on pense qu'il fait mal parce que les adolescents savent toujours mieux que les autres. Et aujourd'hui, je me rends compte que si j'ai été, par exemple, deux fois finaliste des meilleurs artisans de France, c'est grâce à cette dureté de la vie et de le fait que j'ai été avec lui sur le chantier pour un diabolo le soir et même pas un peu d'argent de poche. Voilà, mais donc c'est quand même lui qui m'a inculqué la notion du travail à la dure, et ma mère, qui était aussi très travailleuse, m'a en fait appris plus à rester dans les rails, à ne jamais lâcher. Voilà.
C'est les parents qui construisent ce qu'on sont les enfants.
Ben c'est ça, tout à fait. Ce que, en fait, je leur reprochais à l'époque, aujourd'hui, je peux presque les remercier, même si je leur en ai voulu toute ma vie, parce que j'ai démarré de tellement bas que je leur en voulais de pas être un peu dans la bonne famille que j'aurais souhaité. Mais finalement, est-ce que j'aurais fait tant de choses si j'étais dans une bonne famille? Je ne sais pas. Voilà.
Bias?
Non, c'est beau, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça, et littéralement, oui, voilà, je ne peux que dire que les chemins sont parallèles, il n'y a pas beaucoup de hasard par rapport à ça, et pour moi, construire un quotidien de rêve sans discipline, ça ne va nulle part, et que malheureusement, nous, dans l'artistique, on construit du rêve, et il n'y a pas forcément de retour, surtout dans des périodes comme ça, mais matériel, mais par contre on a du retour humain qui est incroyable. Donc on a toujours quelque part cette chose qui nous revient quand on s'investit à fond, et je trouve ça beau, voilà.
Merci Béastre. Jean-François Daville, je vous demande de choisir une chanson qui définit cette époque. Vous avez choisi Johnny.
Oui, Johnny, je suis né dans la rue. Pour moi... Je regarde l'homme, ce qu'il a été, on peut lui reprocher ses travers aussi, mais il a une vie très difficile, je pense, plus dure que moi, et il est monté tout haut parce que lui, sa vie, c'était de chanter, et les paroles qu'on lui a écrites, puisque c'est pas lui qui a écrit cette chanson, je suis né dans la rue, ça me correspond. Moi, j'ai pas été abandonné, mais je me sens abandonné par la vie quand j'étais plus jeune, donc voilà, je suis né dans la rue, pour moi, ça me correspond parfaitement.
On va l'écouter.
encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Les points se sont serrés depuis, je n'ai pas changé. Parce que je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Oh ouais. Maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Parce que je suis né dans la rue. J'espère que vous avez aimé le nouveau style de blues que nous avons essayé de créer pour vous. À bientôt. Salut.
Vous êtes une chanteuse, auteur et compositrice et pianiste belge. Vous avez un style particulier, une pop ensorcelée, c'est bien ça? Vous définissez comme ça?
Voilà, les médias qui ont essayé de me définir de toutes les manières possibles, ça a été fort difficile. Du coup, le rapport de sortilège, le rapport dans la tête dans les étoiles, et de ne pas vouloir finalement de définir de style, ce qui est très différent de la plupart des artistes qui doivent se mettre dans des cases, me définit bien, voilà, sortir des cases.
Pourquoi vous portez toujours un costume bleu et une chevelure bleue?
Ah, moi, le bleu, le romantisme, le bleu, le ciel bleu, qui met en avant le cœur, qui est l'étoile, et j'espère, en brillant de mon cœur, donc en essayant de faire briller mon quotidien, faire briller le quotidien des autres. Et c'est là tout le rapport de Biastre, devenir sa propre étoile, be your own star, comme ça tu peux faire briller les autres aussi.
Et pourquoi Biastre avec des astres?
Alors ouais, c'est ce que je disais justement, astre, la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds bien ancrés, cette lumière d'imaginaire, pour moi, définit très bien cette recherche d'idéal qu'on essaye de mettre dans le concret. On parlait tout à l'heure de discipline. Mmh. Ça demande énormément de discipline. Et ce projet, Être sa propre étoile, parle de mon message personnel et de mon engagement de cœur à travers mes musiques, qui, vous allez l'entendre, j'espère, l'écouter, parle toutes histoires différentes et mettent en avant des passages de la vie avec le plus d'honnêteté possible, mais surtout le plus de cœur possible. Je mets à nu aussi.
Et vous avez eu des débuts difficiles dans la musique, pour commencer?
Dans la vie. Les débuts dans la musique, ça a été petit aussi, donc voilà. Ça a été assez facile. J'ai une enfance, tout le monde voyait que c'était la musique. J'ai eu aussi une vie difficile, je pense que nous gardons nos zones d'ombre. Et ces zones d'ombre permettent justement de mettre en lumière, et on l'oublie bien souvent. Et le déni fait partie du quotidien des gens, et moi je pense qu'affronter ces zones d'ombre nous permettent justement de briller. D'où le fait que certaines chansons ont l'air plus mélancoliques que d'autres, ont l'air d'aller creuser des passages douloureux de la vie qui pour moi sont nécessaires pour retrouver un peu de courage, de lumière. On en parlait, on va écouter tout à l'heure Coup de foi qui parle des violences conjugales, et je pense que c'est très important de savoir qu'au bout du tunnel parfois dans la vie il y a toujours un espoir, une lumière, et qu'on a la responsabilité de pouvoir sortir des choses qui ne nous conviennent pas.
Jean-François David, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, j'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit, parce que, vous voyez, moi, entrepreneur et futur politicien, et vous, artiste, on est de deux mondes complètement différents, mais vous dites, les gens essayent de nous mettre dans des cases, etc. Tous les jours, je me bats, justement, pour qu'on arrête de me mettre dans des cases, parce que je me présente en politique sans étiquette politique, et en fait, les gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas lu mon livre, puisque moi, j'ai démarré très bas et je finis pas réussir dans la vie, et s'ils connaissent mon passé, me mettre dans une case qu'ils choisissent, s'ils me connaissent maintenant, me mettre dans une autre, et s'ils connaissent le nouveau personnage politicien, me mettre dans une autre. Donc j'aime bien ce que vous dites dans le sens, il faut absolument que les gens nous mettent dans des cases, et moi je lutte tous les jours pour dire non, je suis pas dans la case que vous croyez. Voilà. Donc c'est vraiment sympa.
C'est beau. Ouais. Ça permet d'élargir la conscience des gens qui nous entourent, le fait de jouer avec ces cases, de savoir, nous sommes tous et toutes dans des limites, mais là, il y a moyen de sortir et d'aller vers quelque chose de nouveau.
Tout à fait.
Bia, d'où est venue cette passion pour la musique ?
Ah, comme je vous ai dit, ça a été enfant, j'ai eu la chance d'être dans une famille de musiciens aussi, et j'ai transformé toute ma vie pour l'adapter aussi au texte que j'écris, à la performance, parce que faire de la scène, c'est aussi toute une autre discipline, c'est pas que de la musique. Tout ça c'est venu quand j'étais toute jeune. J'ai eu un coup de foudre en opéra pour tout ce qui se passait sur scène, et je me suis dit un jour j'écrirai tout ce qui se passe sur scène, et j'espère qu'un jour c'est que je suis en train d'écrire comme une pièce musicale de théâtre souvent jouée, en espérant que la culture reprenne un peu plus de dessus dans le quotidien des gens, et surtout dans le quotidien des politiciens.
C'était votre ambition à la base ?
C'est toujours mon ambition. Voilà, c'est très difficile, les gens ne se rendent peut-être pas compte de vivre d'une passion pareille qui est considérée comme un hobby par la société elle-même, qui a décidé de le refourguer à la classe des loisirs, alors qu'en gros, la culture, il y a toujours eu, même dans les villages, des choses magnifiques qui se passaient de tout temps. C'est un peu de l'artisanat, et je pense qu'on l'oublie. Je pense aussi qu'on a refourgué la grande culture à des choses inaccessibles, impayables, alors qu'à l'époque, en fait, tout le monde allait à l'opéra. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la loge en bas, il y a des gens qui venaient avec leurs chevaux, crotter encore leurs grosses bottines, écouter Mozart dans les opéras, ça ne se fait plus du tout. Et c'est dommage que cette culture ne nous rejoigne pas plus vers un idéal commun et nous fait grandir.
Jean-François, sur la culture ?
Non, moi je suis pas très culture, hein. Moi je suis quelqu'un d'entrepreneur qui va dans sa culture à lui, mais je m'intéresse beaucoup à ce que dit Biastre. C'est vrai que le progrès a un peu cassé ce lien de dire on va écouter un artiste en allant le voir directement et pas en ouvrant YouTube et juste écouter son dernier morceau ou des choses comme ça. Donc moi qui me lance en politique, je vais essayer aussi de défendre ces valeurs-là, de revenir à un monde un peu plus ancré, quoi, plus dans l'humain. Se serrer la main, c'est dire bonjour.
Ouais. Je suis totalement d'accord, c'est le lien vivant.
Oui,
le lien vivant qu'on a, parce que YouTube, c'est quelque part un écran, et d'avoir un concert en live, de voir des gens en fait, faire des pièces de théâtre, et en fait, de simplement aller se découvrir soi-même, ça coûte pas grand-chose. La plupart des gens préfèrent justement consommer dans des supermarchés des sommes colossales, dans des centres commerciaux, alors qu'en fait la culture apporte beaucoup plus au niveau humain, parce que ça permet de se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de tout ça.
Le contact avec le public, par exemple Jean-François Daville, vous allez sur les marchés, être en contact avec les personnes.
Ah ben oui, je pense que quelqu'un comme moi ne peut pas se permettre d'être un politicien standard, hein, dans le sens où on fait notre petit programme dans notre coin, on va chercher des infos sur Internet avec des statistiques. Non, non, moi, les statistiques, les choses comme ça, je m'en fiche complètement. Je vais voir les gens au marché, je vais voir dans les événements, mais ça, je le fais pas que depuis peu, parce que je me lance en politique. Ça fait 10 ans, finalement, minimum, que j'écoute dans ma ville les Jarnisiens. Et que ben, je prends des notes. Je suis quelqu'un qui prend énormément des notes. Donc à chaque entretien que je fais avec une personne, s'il y a un argument nouveau, j'ai envie de dire, un besoin nouveau dans la ville que je vais défendre, et ben je note, et puis on en arrive comme ça à faire un programme qui correspond plutôt aux habitants, de ce qu'ils veulent. Et finalement, si on écoute les gens, qu'on se tourne vers eux, ben, on se rend compte que tous les grands programmes qu'on peut entendre à la télé, les choses comme ça, ça ne correspond pas à ce que les gens veulent. On parle de progrès, de société qui change, mais quand on va finalement vers les gens, on se rend compte qu'ils veulent un petit peu revenir en arrière. Hein. C'est peut-être bête à dire avec le confort qu'on a aujourd'hui, mais les gens veulent un marché où ils peuvent se rencontrer, ils veulent plus de festivités avec des artistes, par exemple, des chanteurs, des choses comme ça. On n'en a jamais assez. Je vois dans la ville de Jarny de à peine 8000 habitants, dès qu'il y a un concert qui est fait, il y a quand même 3500, 4000 personnes qui viennent. Donc vous voyez, c'est quand même presque la moitié de la ville qui se déplace dès qu'il y a un événement. Donc je crois que nos politiciens, et c'est ce que je vais défendre demain, doivent écouter ça et donner plus de vie commune, comme le disait tout à l'heure Biastre.
Oui, et je pense que l'intimité, il ne faut pas oublier qu'en fait... plutôt que juste le rire, faire la fête, l'art a comme fonction de vraiment faire poser des questions aux gens et à leur entourage. Et je trouve que, en fait, l'art, c'est isolé des campagnes, c'est isolé de beaucoup de coins. On n'a pas le cas en Belgique parce que forcément, c'est un petit pays, donc on est toujours très proche d'une ville. Mais d'avoir tourné partout en France, j'ai trouvé que l'art était très distant, comme si, en fait, ça faisait une lutte des classes malgré soi. Alors que l'artistique devrait être gratuit, présent dans la vie de tous les jours, en tout cas, pourrait être assez subsidié ou simplement donner aux gens, en fait, une certaine force, comme ça s'appelle, de pont vers ça pour se dire « Ok, je comprends ce que ça apporte dans ma vie et comment ça peut me rendre heureux différemment qu'en achetant quelque chose comme un habit et en se disant la semaine d'après, ben voilà, c'est fini, c'est de la pulsion directe. » Et ce lien social vient là, mais surtout ce lien avec soi-même. Et je pense que le problème même des gens dans leur honnêteté, c'est qu'ils ne se connaissent, ils et elles ne se connaissent plus. Et cette introspection, l'artiste doit la faire toute sa vie pour pouvoir l'offrir. Et j'utilise une métaphore qui est, nous devons parfois souffrir plus que les autres, mais nous justifions en pouvant donner sur scène un vaccin contre cela pour donner un miroir de ce qui ne pourra jamais être franchi dans la vie de beaucoup de gens et justement pour les rendre plus heureux de ne pas avoir devoir vivre autant d'horreurs parfois.
Jean-François Daville,
je me rends compte qu'en plus d'être une artiste, vous êtes quelqu'un de très philosophique. Je suis pressé d'entendre vos musiques. C'est sympa ce que vous racontez.
Oui, écoutez, j'ai étudié un tout petit peu de philosophie, mais j'ai surtout beaucoup écrit. Et je pense que quand on est créateur, on est beaucoup plus introspectif que quand on est juste artiste et interprète. Et j'aimerais bien savoir qui fait venir 3500 personnes près de Metz. Il y a des jolies petites salles de concert très intimistes qui ne vivent plus. Et j'aimerais que ces lieux vivent, que les gens viennent les investir et ne plus aller juste regarder, se dire que le sport c'est la culture, mais au contraire des concerts intimistes. À chaque fois que j'ai fait le tour de France, j'ai vu des yeux pleurer et me dire ben voilà, en fait je n'attendais plus quelque chose comme ça parce que tout est formaté dans l'artistique. Et moi, tout ce que je pensais que je ne voulais plus entendre dans la culture, dans l'art, c'était l'humain. Et en fait, c'est ça que je veux, mais je ne le trouve plus dans des grandes scènes. Et c'est dommage.
Je pense qu'on va échanger nos coordonnées hors émission et vous viendrez très rapidement à Jarny, je l'espère.
Avec grand plaisir.
Bias, vous avez, en 2005, vous avez sorti 4 singles, c'est bien ça?
Oui, et ça continue. On est en train de préparer quelque chose de Noël.
Dites-nous les 4.
Tous les mois, on... Pardon?
Dites-nous les 4 singles.
Ah oui, on va les écouter. Bah, on a commencé par Le Temps, le remix trip hop qui est sorti avec un clip dans la neige, qui est un prix de poésie en France. Il y a eu Blue Viral, qui a fait énormément de vues sur YouTube. C'était un...
Mais c'est en anglais, ça.
Voilà,
ils chantent en anglais.
Voilà, ça ouvre la saga, un côté francophone, un côté anglophone, puisque j'ai tourné aussi un peu à New York, etc. Donc ce côté aussi techno, underground, j'avais envie de l'expérimenter. Je ne veux pas rester dans une seule case, la chanson c'est bien, mais c'est chouette de faire des choses plus modernes, avec des sons, beaucoup plus dansants. Et Blue Viral, c'est un hymne au bleu, et au fait de se relever aussi, mais de manière plus... Allez, tout public. Puis il y a eu Au Kit, qui est une chanson avec le clip qui est génial, qui a été animé par Tom Del Marcel et Carlos Santa de Riesgo. Donc, ils ont pris un mois et demi d'animation à la main pour encore valoriser ce beau monde qu'est l'animation 2D. C'est une chanson jazzy qu'on écoutera tout à l'heure. Il y a eu Coup de Foie qui vient de sortir, dans le clip sort dans pas longtemps, la semaine prochaine, qui traite des violences conjugales. Et il y aura une chanson de Noël, surprise, avant la fin de l'année. Voilà.
Une réponse, Jean-François David?
Non, mais pas forcément de réponse. Je suis pressé d'écouter vos musiques. Voilà.
C'est gentil.
Biastre, je vous demande de choisir une chanson qui définit votre univers. Vous avez choisi une de vos chansons?
Beyond Star, c'est celle que j'ai jouée un peu partout et je remercie tous les gens sur scène qui ont crié avec moi Beyond Star et qui ont fait de cette chanson un hymne à chaque fois que je la joue.
Nous allons l'écouter et les auditeurs vont l'écouter aussi. Jean-François David aussi, vous allez l'écouter?
Bien sûr.
Allez, passons là.
Bonjour à tous, toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter aujourd'hui.
Sometimes you are in the dark, wondering what will be coming. Sometimes you are in the light, blessing what's been fighting. To be or not to be, there's no question. Just follow your dream and intentions. To be or not to be, there's no situation. Just follow your courage and motivation. Brighter than the sun, to be your own star alone. To be your own star, to be your own star, to be your own star, to be your own, to be your own star, to be your own star, to be your own star, to be your own. Sometimes you are in the clouds, trying not to crush your feelings. Sometimes you're lost in your thoughts, working to make this world a better living. To be or not to be, there's no question. Just follow your dream and intention. To be or not to be, there's no situation. Just follow your courage and motivation. Better than the sun, to be your own star alone. To be your own star, to be your own star, to be your own star, to be your own star.
Jean-François Daville, en 2009, vous avez créé JF Multibati. Vous dites dans ce livre que ça a été la croix et la bannière.
Ah oui, tout à fait. Il fallait me voir à l'époque, 18 ans, l'un des plus jeunes entrepreneurs de France. J'étais à quelques semaines, quelques mois d'être le plus jeune. J'ai tout fait de bonheur. Vous comprendrez que j'ai 35 ans. J'ai déjà 17 ans d'entrepreneuriat dans quelques semaines, au mois de mars, le 1er mars. Ça fera 17 ans que j'ai créé ma première entreprise. Quand on commence à 18 ans, qu'on n'a pas de formation, qu'on n'a pas d'études, qu'on n'a pas forcément de parents, ça fait un adolescent un peu en avance sur son temps qui veut faire tout par lui-même. Et puis, il fait ses premières erreurs, il fait ses premières expériences, puisque moi, les erreurs, je les appelle des expériences. Puisque souvent on dit « Ah, mais si j'avais toute l'expérience, je recommencerais. » Mais l'expérience se crée par les erreurs, c'est ça. On peut pas avoir d'expérience si on fait pas d'erreurs, puisqu'on apprend tout de nos erreurs et pas de nos réussites. Et bien moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris de cette première entreprise qui, pendant 2 ans, a vraiment battu de l'aile.
Voilà. On apprend en tombant.
Oui, tout à fait. Et puis à chaque fois qu'on se relève, on apprend à ne pas refaire la même erreur.
Bien.
Oui. Totalement d'accord avec ça.
Vous étiez en avance de votre âge et les banques vous prenaient pour un fou, comme on peut dire. Vous croyez comme faire à ce projet?
Oui, alors je vous rassure, on me prend toujours pour un fou. Voilà, aujourd'hui, avec les projets et avec... malgré l'expérience que j'ai, on prend toujours pour un fou parce que je veux toujours faire mieux, aller de l'avant et faire ce que les autres ne font pas. Moi, je n'ai pas envie de faire du traditionnel. Oui, à 16 ans, je vais rencontrer ma banque, la Caisse d'Épargne, à Jarny, je me rappelle pour vous dire, et je demande un crédit de 80 000 euros pour acheter une grange et en faire des appartements. Vous imaginez la tête du banquier. Il a cru que c'était une blague presque au début. Voilà, j'ai pas eu le crédit, vous vous en doutez. Donc voilà, mais j'ai toujours tenté. Je dis tout le temps, je préfère regretter d'avoir des regrets parce que j'ai échoué que regretter de ne pas avoir tenté.
Qui voilà. Ne tente rien n'a rien.
Tout à fait.
Biastre ?
Clairement. 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 Et c'est difficile aussi quand on est timide. Je pense que vous êtes moins timide que moi. Moi, je me dis faire un travail incroyable pour aller vers les gens. La musique m'a aidé forcément, mais... c'est difficile. Voilà.
Alors, beaucoup de personnes comme vous dire toi t'es pas timide, toi t'es à l'aise avec la prise de parole. Il y a quelques années, c'était pas forcément ça. À 18 ans, quand on commence, qu'on va chez les premiers clients qui vous prennent pour l'apprenti et qui vous demandent où est votre patron, vous voyez, c'est difficile. C'est tous ces petits coups de hache que j'ai pris au tronc, comme je dis, qui m'ont forgé et qui ont fait que la timidité, après, une fois qu'on vous reprend sur une chose, vous apprenez de vos erreurs. Et voilà. Quand on est dans le bain de l'entrepreneuriat, la timidité, elle passe avec les années.
Bien sûr, je pense que tout artiste est quelque part entrepreneur aussi, oui. D'une certaine manière. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous n'aviez pas froid aux yeux et vous croyez en vous-même. Et il y a énormément de gens. Moi-même, j'ai du mal à croire en moi-même et ça, j'admire. C'est de foncer et d'y aller et de se dire, ok, j'ai le droit.
Mais oui, tout à fait.
Et j'ai le droit, c'est tellement difficile.
Comme un artiste au début avec ses premières chansons où il a un peu la voix tremblotante, c'est la même chose, je pense.
Non. Oui, mais on peut être un très bon ou une très bonne artiste et ne pas réussir à trouver son public parce qu'il y a toute une chose qui nous échappe, qui est l'entrepreneuriat, l'artiste, oui. Qui a tué l'artistique à l'époque actuelle puisque les gens ne sont plus que des entrepreneurs artistes. Et voilà, quand on veut développer cette artisanat, ça crée une bulle aussi.
Oui.
Et on a du mal à rencontrer les gens sans les rencontrer, sans un jugement, sans des projections. C'est très difficile, il y a un travail sur soi pour combiner des univers qui ne s'accordent pas et de tous les temps, les artistes ont été très peu reconnus et ont dû bûcher toute une vie parfois pour être reconnus à un seul moment et parfois à la fin.
C'est ça, il faut savoir se vendre et puis saisir une chance. Mais ça c'est dans l'entrepreneuriat, il y a des entreprises, je prends l'exemple d'Amazon, il a commencé qu'à 50 et quelques années, donc il a essayé toute sa vie et puis à un moment donné ça a pris et il a su mieux se vendre parce qu'il était plus expérimenté et il est tombé au bon moment. Il y a beaucoup d'artistes comme ça aussi qui ont été bons toute leur vie et reconnus seulement à un moment donné, c'est vrai.
Et vous deux,
se vendre et aussi s'estimer. Et je pense que on oublie toujours que l'argent a été créé dans une société pour faire un troc à la base de quelque chose. Et si on ne s'estime pas assez bien, il est difficile de demander. Et beaucoup de gens vont se dire, ah tiens, par rapport à ce que je gagne, c'est déjà aussi difficile. Et nous sommes extrêmement taxés, je dois le dire actuellement, parce qu'on risque de perdre aussi notre statut d'artiste en Belgique. Je sais que c'est la même chose en France, je sais que c'est énormément de choses que les artistes en fait dénoncent, qui ne sont absolument pas entendus. Il y a tout le monde qui perd ses subsides. C'est littéralement, on pense qu'un artiste est payé la somme qu'il nous demande, mais il y a toutes les répétitions, toutes les taxes, le matériel. En général, c'est payé moins que tout le monde à la fin du mois. Mais ça, on oublie de le regarder en face.
Biastre, Jean-François Davy, vous cherchez la reconnaissance ?
Alors moi, personnellement, la reconnaissance, oui et non. Bon, je crois que tout être humain, quand il a un peu de reconnaissance envers ses tiers ou des humains, ça fait plaisir, ça flatte un peu un ego. Ça serait prétentieux de dire l'inverse, c'est faux. L'élève à l'école qui a le remerciement ou les compliments de son école est content. Et je pense qu'on a un enfant toute notre vie. On aime bien, quand on a fait un projet, une chanson ou quoi ou qu'est-ce, avoir des compliments. Il faudrait vraiment être prétentieux pour dire l'inverse. Mais ma vie, je ne l'ai pas bâtie comme ça. Je l'ai bâtie, moi, dans le sens où je prends une revanche sur la vie et je crée des projets pour moi. Et puis après, ben, c'est vrai que si au passage, je peux prouver que c'est faisable et que certains s'y reconnaissent et me félicite dans mes projets, et ben je les en remercie.
Mais vous le montrez que c'est faisable.
Voilà, tout à fait.
À votre livre.
Encore une fois, le titre, et pourtant je l'ai fait, c'est pas pour montrer ce que j'ai fait, c'est pour montrer que c'est possible. Voilà.
Bias, une réponse par rapport à ça ?
Je suis totalement d'accord avec ça, et pour moi, ça va plutôt vers il n'y a pas de compliment, il y a beaucoup de sens, et quand on a le retour direct, nous on a un retour humain. C'est-à-dire que j'ai rencontré des astres merveilleux, mais en tournant des gens, je n'imaginais pas qu'ils existaient, qu'ils et elles existaient. Je pense que, bah, en fait, ce retour, c'est mieux qu'un compliment. Un compliment, ça peut être un peu tiré par les cheveux, ça peut être mis pour flatter, pour avoir quelque chose en retour. Tandis que quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est touché, pour moi, c'est du bon retour qui peut exister, voilà.
Jean-François Daville, on peut parler de votre HPI ?
Oui, on peut.
Vous êtes diagnostiqué, dites-nous en plus.
Oui, alors c'est très tard, hein, à l'âge de 30 ans, j'ai été diagnostiqué au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. À l'âge de 30 ans, vous voyez, peut-être on aurait pu le diagnostiquer avant, mais j'étais pas encore un homme assez libre, peut-être pour me servir de ces compétences. Et encore une fois, je veux revenir là-dessus parce que beaucoup de personnes aussi peuvent dire que c'est prétentieux de le dire, mais moi je ne me sens pas plus intelligente. Hein. Il y a plusieurs formes d'intelligence, je crois qu'il y en a presque 7, je crois. Je ne sais plus, je n'ai pas assez travaillé la question pour vous expliquer, mais moi j'ai une intelligence mécanique, c'est-à-dire que j'arrive à aller chercher des informations dans des cases et d'assembler tout ça et de créer un projet. Donc, c'est pour ça que finalement, moi, créer des projets comme j'ai fait toute ma vie, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Je le fais pour satisfaire quelque chose dans ma tête, ce besoin de toujours cogiter. Je dors très peu, je me réveille, je me rendors, je fais un projet, je travaille la nuit, j'écris mon livre la nuit avec l'aide de ma femme. Après, je suis un électron libre, je mets ça sur un papier, et puis derrière, ma femme a repris. Mais voilà, donc j'ai cette capacité-là, et je ne me sens pas plus intelligent qu'un autre, mais j'ai d'autres compétences que certains n'ont pas, et par exemple, je n'ai pas de compétences dans la culture, j'ai pas de... Vous voyez, c'est des choses où mon cerveau n'arrive pas à enregistrer, parce qu'il est focalisé sur autre chose.
On est un hyperactif aussi, tout le temps
c'est
dans
ça,
le mouvement.
C'est ça. Et les émotions, je ressens les émotions de tout le monde, même à travers le téléphone, je peux ressentir les émotions, c'est quelque chose... Je ne sais pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est un don, voilà.
Biastre ?
Ah, c'est intéressant parce que moi j'ai eu cette étiquette justement assez jeune, mais j'ai lutté contre cette étiquette parce que je trouvais que c'était un étendard que j'avais pas envie de porter, étant donné que quand on est diagnostiqué jeune, forcément l'ego monte très vite, j'avais pas du tout envie que mon ego monte. J'avais essayé de faire le test à mes amis qui faisaient des scores désastreux parce que créativement ils se demandaient. C'est le petit point dans la question du test de QI. Ce ne serait pas mieux de le mettre de l'autre côté. Je disais, tiens, il y a des intelligences créatives. Il y a plein de formes d'intelligences différentes. Pour moi, il n'y en a pas 7. Il y a autant d'humains qu'il y a sur la planète. et je trouve qu'on valorise trop souvent juste le QI, qui est le traitement de la donnée, enfin bon, bref, le fait d'emmagasiner la donnée, de la traiter et de la restituer, alors qu'en fait, il y a mille façons, il y a par exemple l'intelligence émotionnelle, non pas, le fait de sentir les gens, de se mettre à leur place, de pouvoir interagir, les positionner. Pour moi, c'est l'intelligence, ça se cultive, ça se travaille toute la vie. Voilà, toutes les formes d'intelligence possibles. Alors, on peut être beaucoup plus spécialisé, regarder justement s'il a une intelligence mécanique géniale et qu'il a une femme qui, justement, aussi l'aide dans ça. Il faut remercier l'entourage, parce que c'est des collaborations. Malheureusement, parfois, on n'a pas la chance d'avoir des gens avec qui collaborer. Du coup, on fait un peu tout seul, ce que moi-même, je me suis évertuée à faire. Parce que je réalise des clips, je les monte soi-même. Et c'est une découverte incroyable de plonger dans des façons de réfléchir différemment. Parce qu'on se rend compte que la société est beaucoup plus riche que ce qu'on pense. Et que juger les gens, les mettre dans des cases, s'arrêter à ça, on juge tous et toutes. Ça ne permet pas, en fait, de comprendre comment collaborer, se rencontrer et créer ce fameux lien qui est en train de s'effriter à l'époque actuelle, quoi.
Merci Biastre. Un commentaire, Jean-François? Vous avez une histoire d'amour qui vous a fait souffrir, mais la providence, celle-là où vous rencontrez Caroline, qui est avec nous, là, qui est devenue votre rock, on peut dire ça?
Ben, c'est, ouais, ce qui va avec mon passé, mon mauvais départ dans la vie, dans l'entrepreneuriat, ben aussi dans l'amour. Hein. J'ai eu une première histoire d'amour difficile qui m'a rongé. Et puis voilà, il y a eu la lumière au fond du tunnel, si je puis dire. Caroline, on s'est rencontrés en 2011, on se connaissait déjà puisqu'on est du même village. Et puis c'est avec elle que je suis allé dans le sud en 2011. Et puis voilà, en fait, tous les deux, on a foncé tête baissée et on est très complémentaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, elle m'a tenu.
Comme vous dites, vous quittez
Jarny. C'est beau l'amour.
Vous quittez Jarny pour Saint-Raphaël et là-bas, vous avez des couacs, quoi, rebelote.
Ah ben, quand vous partez sans un sou, je l'explique dans mon livre, avant de partir, je dormais dans ma voiture, j'étais littéralement sans abri, on peut dire ça. J'avais plus un sou, j'avais plus rien. Et voilà, pour vous dire, c'est Caroline qui a payé avec ses trois sous le trajet pour aller à Saint-Raphaël. Elle m'a nourri pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. On a habité dans un mobilhome au fond des champs, j'ai envie de dire, où l'hiver, dès qu'il gelait un petit peu trop, puisqu'on était dans l'arrière-pays, on n'était pas tout à fait à Saint-Raphaël, on n'avait plus de toilettes, plus de douche, parce que tout était gelé. Et puis, il fallait compter, alors c'est un souvenir, hein, je me rappelle, le seul loisir qu'on avait, c'était de se promener le long de la mer, hein, puisque c'était gratuit. Et puis, on a compté souvent les sous, il nous restait quelques centimes, et on a souvent mangé qu'une baguette de pain. Voilà, j'ai connu toutes ces galères-là, à ce que je sais ce que c'est d'avoir la faim. La faim, c'est avoir un nœud à l'estomac tellement on a faim.
Ça soude.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, je la regarde souvent en rigolant parce que on se fâche beaucoup. Mais je me dis, il y aura que la mort qui nous séparera. Voilà.
Biastre.
C'est beau l'amour. Et oui, la faim, on l'a connu, voilà, manger les gencives, etc. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que les plus simples plaisirs sont les meilleurs. L'artistique, encore une fois, je pense qu'on oublie que c'est gratuit. Il y a tout qui est à disposition, il y a des bibliothèques partout, etc. Des merveilleux livres qui ont été écrits et qui nous permettent de voyager, surtout quand on est seul. Vous avez eu la chance d'avoir trouvé l'amour. Et pour moi, c'est la plus grande richesse du monde.
Jean-François, Saint-Raphaël, vous avez connu des personnes qui vous ont fait grandir, qui vous ont forgé un caractère.
Oui, j'ai rencontré notamment, quelques mois après mon arrivée, un artisan, José, un Espagnol. On l'appelle l'Espagnol là-bas, c'est une caricature, mais lui, il aime bien. C'est quelqu'un avec un bon cœur. Il m'a mis sur le marché, comme je dis. Il m'a fait rencontrer un maître d'œuvre, Guy, qui a été une personne qui a fait beaucoup pour moi, mais pas dans le sens matériel. Il m'a fait me remettre en question. Il a été vraiment mon père spirituel, hein, il faut dire ce qu'il est. En fait, il m'a fait me
mûrir.
Oui, mûrir, mais à une vitesse folle, parce qu'il m'a donné beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Et surtout, il m'a fait me sculpter moi-même. Je suis devenu un homme, hein, grâce à Guy. C'était voilà, le père que je n'ai jamais eu, je l'écris dans le livre, hein, c'était le père vraiment que je n'ai jamais eu, et grâce à lui j'ai évolué encore plus vite alors que j'étais déjà en avance, et voilà, donc au bout de 3 ans, ben, j'avais une belle structure, une belle société avec 12 employés, et je faisais des belles villas, des rénovations de villas à 14 millions d'euros, vous imaginez, moi le petit gosse de Jarny faire ça, c'était presque un rêve, quoi, hein, voilà, tout simplement.
Et d'où vient ce désir de revenir à Jarny ?
Bah, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très attaché à la campagne, aux relations humaines, et c'est vrai que quand on va sur la Côte d'Azur, je ne veux pas critiquer la Côte d'Azur, comme je dis, je ne veux pas crêcher dans la soupe, mais voilà, c'est Jarny a toujours été dans un coin de ma tête. Quand je suis parti en 2011, dès que j'ai commencé vraiment à m'en sortir, à avoir à manger dans l'assiette, je me suis dit qu'un jour, je devrais revenir à Jarny pour faire ce que j'ai fait dans le Sud, pour moi, pour ma famille, et puis peut-être... comme j'avais des ambitions de me présenter à la mairie, et ben de le faire pour maintenant la ville avec ce que j'ai appris.
Voilà. Vous savez que vous avez des projets, que vous venez pour les projets.
Ah bah oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé à investir à Jarny dans l'immobilier. Donc j'ai eu aussi plusieurs restaurants. Et voilà. Donc c'était ma façon à moi de revenir et d'avoir une revanche sur la vie que je n'avais pas eue ici à Jarny. Et puis tout doucement, eh ben, on s'intègre dans le lien social qu'on avait quitté un petit peu. Donc, on est parti moins de 10 ans, hein, on est parti 7 ans puisqu'on est revenu dès 2018. Pardon. Et voilà, donc tout doucement, j'ai repris ma place où j'en étais, mais avec des bagages en plus.
Revenons à Caroline. Croyez-vous qu'elle a vu ce que beaucoup n'ont rien vu ?
Ah oui, ça, elle a vu toutes mes facettes, hein, les bonnes et les mauvaises. Elle m'a toujours, comme les autres, dit t'es fou, mais je sais que tu peux y arriver, t'en as les compétences. Hein. Aujourd'hui, chaque nouveau projet, par exemple l'intelligence artificielle, des choses comme ça, dont je me lance, elle me regarde un petit peu dans les yeux, elle réfléchit, puis elle me dit de toute façon t'en es capable.
Voilà. Et d'où vient cette ténacité, cette persévérance ?
Bah, je crois que de là où je viens, ma famille, ma mère n'a jamais lâché. Hein. Elle a eu une vie très très dure et elle n'a jamais lâché malgré tout. Alors elle n'a pas percé comme moi puisqu'elle n'a pas pu, elle n'a pas eu envie, elle n'a pas eu les ambitions aussi, elle n'a pas pu. Mais non, j'ai vraiment pas envie de reconnaître ma vie d'avant. Même si, comme je dis, c'est ce qui m'a forgé. Et puis, je suis quelqu'un de très têtu, alors, dans le bon et dans le mauvais. Hein, il y a les deux sens. Mais je me sers du bon pour dire quand je veux faire quelque chose, je le fais et je l'aurai. Et puis, je lâche jamais l'objectif des yeux.
Je l'aurai. Béat, quelque chose à rajouter
sur le jeune coup. C'est la ténacité qui, parfois, peut-être aussi, je n'ai pas la fougue d'aller chercher. D'aller prendre et d'aller, je pense aussi, on doit le souligner, parfois il y a toujours dans l'éducation, les femmes doivent moins aller foncer, et pourtant c'est une qualité qui est essentielle pour pouvoir réussir, comme on dit, pour moi c'est très cliché ce mot-là, réussir à faire advenir des projets et les concrétiser. Et personnellement, moi, c'était à bras aussi que j'ai porté toute ma carrière dans un monde où, en fait, tout le monde voulait des cases, tout le monde voulait The Voice, tout le monde voulait quelque chose de très formaté, on peut le dire. Et ouais, la ténacité fait qu'on porte ces choses-là à bout de bras et ça arrive avec des fruits. Quoi qu'on fasse, la passion et le travail amènent toujours quelque chose.
Merci bien. Pour ce commentaire, Jean-François, j'ose dire, c'est une chanson qui est dédiée à Caroline et aux personnes qui ont cru en vous.
Oui, alors Jean-Jacques Goldman, Encore un matin. Pourquoi ? Bah parce que c'est une chanson entraînante. Vous verrez, les chansons que je choisis, c'est toujours entraînant. Encore un matin. Tous les matins, je me réveille avec un nouvel objectif et je me crée de nouveaux projets. Et bah, c'est à peu près à l'image de cette chanson.
On va l'écouter. Thank you. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène?
Comme je vous ai dit encore, Beyond Star, etc., c'est devenir sa propre étoile. Et surtout, j'aimerais vous parler de mes singles qui sont sortis. Je trouve que c'est le plus important, c'est pour ça que je suis là aussi. J'espère qu'on va écouter Blue Viral, qui est un hymne électropop. Est-ce qu'on pourrait l'écouter?
Nous allons l'écouter maintenant.
Oui, allez.
Pour vous faire plaisir.
À me dire en commentaire ce que vous voulez.
Blue Viral, c'est ça?
Voilà. Est-ce que vous voulez. Quel style de chanson vous voulez que je sorte aussi en 2026? Donc, le projet, entre autres, va me permettre maintenant de me concentrer et de sortir un single par mois, de monter aussi un clip à chaque fois. Donc, voilà. Si vous avez aimé de la techno, dites-le moi. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux B-AS.
On l'écoute.
On every media with more than this drama, I'm there to reinforce your feelings of my group.
Voilà, dites-nous vos réseaux sociaux, Jean-François Daville.
Alors moi c'est tout simplement sur Facebook, je suis très actif sur Facebook, Jean-François Daville, tout simplement. Vous tapez mon nom et vous tombez dessus, on est un petit peu sur Instagram mais pas beaucoup. J'ai plusieurs sites internet si vous voulez suivre mon activité professionnelle, Daville Pro Immobilier, Daville Solutions Bâtiment. Et aussi pour donc ma campagne qui démarre là récemment, Daville Municipal 2026 avec toute mon équipe que vous pourrez découvrir, mon programme, etc. Et mes ambitions qui sont autant pour Jarny que nationales puisque je porte de grands projets qu'on reviendra tout à l'heure dessus.
Biastre, vos réseaux sociaux ?
Partout sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, B-Astre, sinon il y a mon site B-Astre.com. Vous pouvez toujours acheter mon ancienne EP, il y aura un dîner qui va bientôt se faire. Donc on a besoin de tout le monde en permanence. Likez, partagez, ça coûte rien du tout. Et voilà, je pense que si on n'était pas sur les réseaux sociaux, littéralement, il y aurait beaucoup de gens qui nous oublieraient. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous envoyer des messages avec l'équipe aussi. On est quand même des gens très motivés, qui ont envie de vous rencontrer. Il y aura plusieurs dates, j'espère, en 2026. Ça dépend aussi de comment la culture, comment la culture se met en avant en Belgique. Un peu partout. J'espère qu'on refera avec l'ASBL qu'on a construit, donc Astra Project ASBL, le cabaret. On a eu l'occasion de pouvoir faire il y a un an et demi. Au Riche Clair, malheureusement, voilà, tout tombe. J'espère qu'on aura l'occasion à un moment de monter des pièces de théâtre. J'ai écrit une comédie musicale, je me suis un drame musical. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour voir tout ce qui se passe.
Biastre, une chanson qui définit votre futur, votre présent, vous avez choisi le temps.
Voilà, une de vos chansons. Ce qui est le prix de poésie que j'avais écrit à l'époque où je me demandais si finalement, nous, petits humains sur la planète Terre, on existait encore vraiment à travers toutes les choses qui passent au quotidien et qui nous dépassent surtout. Donc voilà.
Nous allons l'écouter. Le temps.
Le temps qui passe n'a que faire de nos peines et les sentiments s'enchaînent et comme ces gens qui partent à vivre de rêves et d'amour, d'espoir dans nous. Et livrer tes âmes.
Pourquoi le temps ?
Le temps qui passe n'a que faire de nos peines et les sentiments s'enchaînent. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est le début de la chanson. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation.
Ils l'ont écouté.
C'est une horloge qui passe. C'est les choses qui vieillissent. On a peur du temps qui nous fait vieillir, alors que le temps, pour moi, est juste quelque part quelque chose d'indépendant à nous-mêmes, et c'est un gage de distance, c'est un gage de prendre les choses comme elles viennent, de les accepter. On a parlé beaucoup d'acceptance pendant toute l'émission, d'accepter les choses difficiles, de se construire à travers ça. Pour moi, le temps fait beaucoup, et on oublie de prendre du recul sur les choses pour pouvoir les affronter. Et nous sommes dans une société qui a énormément de blessures qui ne sont pas pensées avec A et qui ne sont pas pensées avec E aussi. Et c'est dommage que ces blessures nous empêchent par la peur d'avancer ensemble.
Merci Béat. Jean-François David, vous êtes lancé la peu vers la route pour le municipal de Jarny.
Oui.
Pourquoi cette ambition ? Voulez-vous changer les choses à Jarny ? Il y a quelque chose à changer ?
Je suis un homme, il ne peut pas s'empêcher de changer les choses. Dès que j'arrive sur un chantier, moi aujourd'hui mon activité c'est maître d'œuvre, expert en bâtiment, je vais délaisser tout doucement ces activités pour me lancer à plein temps en politique. Mais voilà, je suis quelqu'un de perfectionniste qui aime changer les choses, qui aime développer les choses, les chiffres, les façons de faire. Comme je le dis dans mon livre, j'ai toujours eu ce rêve, ce petit projet dans le coin de ma tête d'être un jour le chef de la ville, comme dirait ma fille, puisqu'elle dit que je vais être le chef de la ville. Et bien voilà, c'est chose faite. J'aurais pu me présenter avant, ailleurs, mais voilà, ma ville de cœur, c'est Jarny, ma ville d'enfance. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire à Jarny parce que je trouve que y a plus de travail à faire qu'ailleurs. Elle est un petit peu délaissée depuis maintenant plus de 26 ans. Et puis j'ai les solutions surtout, sinon je ne me présenterai pas juste pour dire j'ai envie de changer pour changer. Il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, et notamment la réouverture, ou plutôt l'ouverture de nouvelles mines en France. Et ce projet, je tiens à le faire à Jarny, puisque Jarny c'était le pilier minier.
Et en Europe aussi.
Et en Europe, oui. En fait, la Lorraine en général était très productrice de minerais de fer, et plus particulièrement Jarny. Donc voilà, je reviendrai un peu plus précisément après sur le projet, mais Jarny, ma ville de cœur, et parce qu'il y a beaucoup de travail, et parce que justement le travail c'est ma force.
Vous vous présentez sans étiquette, vous avez créé Jarny ensemble, c'est bien ça ?
Oui, alors il faut faire la distinction, je me présente donc sans étiquette, c'est une liste électorale pour me présenter en politique, et j'ai créé l'association Jarny Ensemble. C'est une association pardon, vraiment apolitique. Aujourd'hui je suis que le fondateur, je ne suis plus le président, j'ai passé la présidence, mais j'ai toujours été dans le domaine associatif, j'ai toujours donné beaucoup de mon temps, financier aussi, matériel. Et donc à Jarny, mais je pense que pour démarrer, il y avait besoin de cette association qui rassemble les Jarnysiens. Et du coup, voilà, on a déjà fait des choses, on en fait. On est déjà à la quatrième idée. Si vous avez envie de voir le site, vous allez sur jarnyensemble.fr. On donne la parole aux Jarnysiens et on... Simplement, ils nous donnent leur avis, mais que ce soit de la demande de toilette, d'un concert, d'une soirée Halloween, des choses comme ça. Et puis, avec cette association, on essaye de répondre au maximum. Alors, on n'a pas plein pouvoir, ça reste une association. Mais je crois que c'est un modèle citoyen qui fonctionne bien, puisque en quelques mois, on a eu presque 70 idées de données et 2000 votes. Donc, vous imaginez, c'est énorme, plus que la structure en place, la mairie actuelle. Donc, je suis assez fier d'avoir fondé cette association. Et puis la candidature sans étiquette, parce que je me lance en politique, mais je n'aime pas ce mot politique. Pour moi, c'est gérer une ville comme je le ferais pour mes entreprises. Et la politique, donc les lobbies, j'ai envie de dire, de ces partis politiques n'ont rien à faire à l'échelle d'une ville. À l'échelle d'un pays peut-être, mais pas à l'échelle d'une ville. Donc rassembler le plus de Jarnysiens possible de tout horizon.
Derrière vous. Comment avez-vous choisi vos équipes? Vous avez choisi ou sont-ils venus vers vous?
Les deux, j'ai choisi. J'ai été chercher les premiers de la liste, des entrepreneurs, mais beaucoup de personnes sont venues vers moi. J'ai été agréablement surpris quand j'ai commencé ce projet où on m'a vraiment beaucoup contacté. Et donc j'ai pu choisir et c'est ça qui est bien. Donc j'ai vraiment voulu, vraiment de tout horizon, par exemple sur notre liste, on a la personne d'ultra-gauche au RN, voilà, mais tout ça, quand on est en réunion pour Jarny, on n'en parle pas. On parle de Jarny avec chaque idée et on les met dans un pot commun et on construit les projets pour Jarny. Et puis de tout âge aussi, puisque ça va de 25 à 71 ans, donc je suis assez fier d'avoir pu rassembler de tout horizon et de tout âge.
Il y a plus de personnes qui sont créées en vous?
Ça s'est fait assez naturellement quand j'ai annoncé ma candidature il y a un peu moins d'un an maintenant. On va dire que la mayonnaise a pris assez rapidement.
La sauce a monté.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ou alors, dans une ville qui est très ancrée à gauche, avec les affiliations, comme vous pouvez savoir comment ça se fait à l'échelle municipale. Donc, on donne un peu à droite, à gauche pour satisfaire. Et bien, moi, j'ai voulu casser ces codes. Et puis, en moins de quelques mois, 1800 followers, 550 000 vues durant les 28 derniers jours. Donc, je deviens un influenceur presque malgré moi. Je ne m'attendais pas à ce mouvement. Je commence à toucher même outre ça, puisque aujourd'hui je suis en Belgique par exemple, j'ai été à Valence, à Paris, j'ai été reçu au ministère, j'ai été reçu par la sous-préfète, par le ministère, le président de la République m'a répondu, donc voilà, je suis assez fier de ce que j'ai commencé à construire.
Ça fait plaisir de montrer vos projets.
C'est ça, voilà, on me prend pour une personne légitime, alors qu'au tout début, quand j'ai annoncé, je suis arrivé avec mes grands sabots, on me disait, et puis finalement, les semaines passent, et puis on commence à comprendre que ce que j'ai construit dans ma vie, mon groupe aujourd'hui, le groupe Daville, je peux le faire pour Jarny.
Merci Jean-François David. Béatre, nous allons écouter un de vos derniers morceaux, au kit.
Oui, c'est ça, et je voulais rebondir, puisqu'on arrive en fin d'émission, c'est important d'aller chercher ses rêves jusqu'au bout, et je pense que c'est ça qui nous rejoint aujourd'hui, et je suis très contente qu'il ait réussi à aller aussi loin, parce que c'est très dur, il faut avoir une sacrée carapace aussi, et pas oublier la sensibilité du cœur et les liens des gens à travers tout. Je pense que certes on a besoin d'un chef, mais on a besoin de gens qui savent se mettre plus bas dans l'humilité. Je pense que c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de pouvoir s'agenouiller dans l'ego pour laisser passer en fait tout ce qui fait qu'une société puisse changer. Et je pense que c'est le problème actuellement, c'est que tout le monde se retrouve avec des égos surdimensionnés en politique actuellement et s'effrite alors qu'on oublie le trajet et vers où on va. Et je suis contente qu'il parle des mines parce que je trouve que c'est une région qui a été fort délaissée.
Nous allons en parler.
De ce côté-là. Et le travail, le fait que les gens retrouvent un travail là-bas va peut-être pouvoir changer le paysage émotionnel et sentimental de beaucoup de gens là-bas.
Alors, je reviens sur le côté humain de ma candidature. Pour vous donner des petites idées, une ville comme Jarny, un salaire de maire, c'est aux environs des 2000 euros. Mes premiers engagements, que je tiens déjà, c'est de me rémunérer au SMIC, puisque je veux être au niveau des autres. J'ai déjà donné mon numéro de téléphone personnel à toute la ville. Tout le monde peut le trouver aujourd'hui. Voilà, je pense que un maire doit être accessible et si on a envie de l'appeler, on peut. Je refuse les voitures de fonction. Vous voyez, je mets des choses où je démontre que je ne suis pas.
Qu'il faudrait faire. Voilà. Et si vous pouviez faire un exemple pour certaines personnes un peu partout, ce serait beau. Et je suis hyper heureuse.
On va essayer
de rencontrer Jean-François pour ça.
Il va vous inviter au concert.
Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, c'est mes valeurs, c'est ça. Hein, c'est je me lance en politique, pas pour m'enrichir, hein, pour faire de l'humain avant tout.
Pour avancer.
Oui, tout à fait.
Comme moi dans l'artistique.
C'était nous trois personnes qui vous ont cru en vous. David, Jean-François David.
Alors, ben, ma femme, pour commencer, c'est la première, je pense, dans ma vie qui a commencé à croire en moi. Je parlais tout à l'heure de l'artisan, José, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis Guy, mon père spirituel, qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, je pense.
Bias, nous allons écouter Okit.
Voilà, Okit. Donc, c'est une chanson. Malheureusement, on n'a pas pu écouter. Je ne sais pas si on pourrait l'écouter une fois. Voilà, parce que écoute. C'est une chanson qui parle de violence conjugale qui vient de sortir et qui aura un clip qui va sortir la semaine prochaine. Pour moi, c'est une chanson qui symbolise beaucoup.
Ouais,
puisqu'elle symbolise le fait, justement, on en a parlé avec Jean-François tout à l'heure, vous avez eu aussi une relation très compliquée dans votre vie. Sortir des relations toxiques et se dire qu'on est responsable de sa sortie, c'est important parce que ça permet de créer des nouvelles choses, des nouveaux amours, des nouvelles expériences qu'on n'aurait pas imaginées si on était resté sous une emprise.
On l'écoute.
Toujours dans les mêmes affaires, à regarder les étoiles filer. Je te demande quoi faire, en attendant de t'habituer. Et puis cette vieille routine finit par te brûler. Tous tes croisières que tu avais cru possible bientôt finissent d'accouler. Mais où qui je m'en vais, pour la vie que j'ai laissée. Pour deux paroles, même pas un au revoir. Et je m'envole vers d'autres soirs, car où qui je m'en vais, pour la vie que je t'ai laissée. Plus de paroles, même pas un adieu. Et je m'échappe vers d'autres cieux. Là où revient le destin, jour après jour l'ennui se lève. On ne sait plus quoi se dire, alors on finit par se taire. On se ment, on se défend, on se rentre dedans. Faut-il refaire le monde quand on n'a pas le temps? Moi j'aurais voulu qu'on s'invente une histoire d'amour, plus savoir à se dire au revoir un jour. Et j'aurais voulu que tu restes avec moi. Tu t'es bien laissé aller tellement bien que je ne t'ai plus reconnu. T'en es bien foutu de tout ce qu'on avait pu vivre, de tout ce qu'on avait vécu. Ah, faut-il que les amours durent le temps d'un beau jour. La route, il les efface, les gens leur mettent des carapaces. Quand on y croit toujours, ils sont à chaque détour. Mais quand on aime vraiment, c'est embêtant. Oh, quitte, je m'en vais, pauvre la vie que je t'ai laissée. La porte vient de se refermer, je te laisse mon amour en pensée.
Jean-François, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Dites-nous un peu sur les mines. Alors, projet.
Voilà, je voulais en parler. Donc, j'ai créé un projet plus que local, hein, c'est national et international. Je prévois de réouvrir les mines qui ont donc complètement fermé, les mines d'extraction de minerais de fer. Et aujourd'hui, il reste en France, je crois, qu'une mine à Varangéville, dans le 54, non loin de Jarny. Mais celle-ci exploite du sel, donc le sel, la baleine que tout le monde connaît, le sel, même je crois que vous avez en Belgique et chez nous en France qui sale les routes. Voilà, et ben, tout ça, ça vient de Varangéville. Donc c'est pas impossible d'avoir encore des mines en France. C'était des questions politiques à l'époque. Pourquoi ça a été fermé les mines dans les années 80, 82, je crois, pour celle de Jarny, la dernière. Ben, parce que le minerai qui est arrivé du Brésil, par exemple, on appelle ça le minerai exotique, arrivait à peu près à moitié prix de ce qu'on exploitait en France et était de meilleure qualité. Moi, j'aime bien revenir en arrière parce que je pense hein, que le monde moderne n'a rien inventé. Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure a été créé par nos ancêtres et on ne fait que les développer ou les reprendre. Et ben, je me suis dit, à Jarny, qu'est-ce qui faisait la richesse avant ? À Jarny, on était, je crois, 10 000 habitants dans les années 80, et puis là, il y a eu la décadence démographique à cause de la fermeture de ces mines. Les mines, c'était plusieurs milliers de personnes qui travaillaient. De la richesse sociale, il y avait à peu près 45 bars-restaurants. Aujourd'hui, on dépasse à peine la dizaine. Mais tout ça, ça a été une richesse économique aussi, puisque ça a créé énormément de richesses. On avait des hauts revenus quand on était, quand on travaillait à la mine. Eh ben, j'ai travaillé, planché sur le projet, pourquoi ça a fermé, etc. Et puis avec mes facilités, on va dire, mécaniques, j'ai créé un projet, déjà une étude de 19 pages que vous pouvez retrouver sur mon site internet de la ville municipale. Et ce projet-là, ben, je l'ai envoyé au président de la République et il m'a répondu en seulement 4 jours. Donc, il a transmis tout ça. J'ai eu d'autres échanges avec son chef de cabinet et son directeur de cabinet. Ensuite, j'ai donc été reçu grâce à ce courrier au président de la République par la sous-préfète pour exposer mon projet. Et ensuite, aussi reçu au ministère de l'industrie. Et voilà, j'ai pu présenter ce projet. J'ai été reçu, vraiment. J'ai eu plein de partenaires qui m'ont contacté. J'ai été à Valence signer déjà un accord cadre d'une société New Solar qui m'a déjà commandé 4 000 tonnes de minerais par an, alors qu'à l'époque, Jarny produisait 200 000. Donc on est déjà, alors que le projet n'est pas encore mûri, à presque le débit, on va dire, qu'on aurait pu faire à l'époque. Il nous reste environ 300 millions de tonnes de minerais. Et moi, je crée de l'écologie avec ce projet, puisque si aujourd'hui, on dit on rouvre les mines écologiquement et économiquement, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai dû imaginer plusieurs mécanismes. Et c'est quoi les mécanismes ? C'est pouvoir exploiter la géothermie, donc pouvoir enfouir des tuyaux et se servir de la chaleur souterraine, puisque plus on va profond, plus c'est chaud. Ensuite, on peut réenfouir ces mines avec des déchets inertes et on peut, avec ces déchets, les charger en CO2. Donc aujourd'hui, avec tous ces mécanismes, eh ben, on deviendrait donc ce qu'on appelle une mine climato-positive. Donc on stocke plus de CO2 qu'on en crée. Encore plein de projets, il y a l'hydrogène qu'on pourrait exploiter, il y a l'hyperconcentration solaire pour faire fonctionner la mine qui serait autonome en énergie 90% du temps. Bref, allez voir cette étude. Beaucoup pensent que la réouverture des mines est impossible. Et je le dis, c'est impossible de réouvrir les mines, mais on peut créer de nouveaux puits avec ce modèle économique social qui serait aussi tripartite, donc géré par l'État, la ville et un privé. Et donc c'est une nationalisation. Et je suis assez fier de ce projet qui m'a mis quand même plus de 2 ans et quelques nuits à travailler sur le projet. Et il est déjà reconnu nationalement. Donc c'est pour ça aussi que je viens en Belgique, parce que vous avez un passé aussi minier sur le charbon. J'ai pu rencontrer d'anciens mineurs belges. Et voilà, je leur expose mon projet, sur l'aspect technique, écologique, et il séduit en tout cas toutes les personnes qui prennent le temps de lire cette préétude, puisque si on ne la lit pas, on ne peut pas comprendre le projet.
C'est positif, vous avez emboîté le pas.
Mais de toute façon, que je sois élu ou non, je me battrai pour ce projet, parce que quand on touche l'État comme ça, et il a déjà mis des mécanismes en place, hein, il y a des ministres qui se sont déplacés pour visiter la mine de Varangéville, il y a le préfet qui commence à s'intéresser aux énergies souterraines, et bien c'est grâce à ce projet, et donc j'ai l'impression d'avoir mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière industrielle qui est en train de fermer, puisqu'en France c'est un désastre aujourd'hui. Encore il y a quelques jours, Novasco, la scierie verte qui a fermé, vous avez entendu Brandt, hein, qui a fermé tout ça. Donc voilà, je pense que me lancer en politique, c'est faire de grandes choses. Et avec ce projet, je vais prouver que je suis capable de diriger des hauts projets.
Vous êtes sûr de vous ?
Je suis sûr à 100%.
Béatre ?
Moi, je suis contente s'il y a quelque chose de durable et que je pense que tout ne vient pas forcément du passé, tout se combine avec le passé et que la création du futur, c'est toujours un réajustement de ce qu'on connaît du passé. Et c'est ça qui fait bien. Et si on arrive à faire vraiment quelque chose de durable, d'écologique, et juste en plus de réinverser cette empreinte carbone, ben c'est génial. C'est vers ça qu'on va aller. Et par contre, ça touche vraiment à moi aussi, mon combat pour relocaliser tous les secteurs. Il faut arrêter d'aller dans le macro, il faut arrêter d'aller dans des multinationales, etc. Stop, on sait très bien que c'est ça qui fait que tout croule en ce moment et qu'il y a énormément de sous qui sont filés en douce pour que des décisions politiques se prennent, alors qu'en fait on devrait pouvoir être acteur et tenir le rôle face à ces grosses sociétés. Donc se relocaliser, se recréer des échanges locaux, pour moi c'est hyper important.
Bah, c'est bien que Béatre, votre perspective à faire partager avec Jean-François Daville, vous pensez aussi ?
Je pense que certainement beaucoup de personnes n'ont pas été éduquées à l'art, jeunes tout simplement ne l'ont pas eu au quotidien. Et que c'est vraiment dommage qu'on rate un pan de la société, et que moi c'est ma lutte au quotidien, c'est dur parce que je dois parfois me retrouver sur scène avec des gens qui ne savent même pas c'est quoi applaudir et qui ont envie juste de rire et venir les chercher par les émotions, et pour moi c'est ça mon vrai combat, et je sais que c'est un sacrifice, je sais que ça ne va pas être une entreprise comme on dit de réussite 100%, mais je sais que ça va payer humainement, ça paye déjà, et je vois énormément de gens qui sont touchés par des artistes comme moi qui créent encore ce pont émotionnel, et si je dois lutter toute ma vie pour que l'artistique ne perde pas ses lettres de noblesse et reste accessible à tout le public, je le ferai dans l'ombre ou la lumière, qu'importe.
Merci Béatre. Nous arrivons à la fin de l'émission. Jean-François Daville, les élections municipales 2026.
Oui, ça arrive au mois de mars.
Combien de chances d'après vous
que vous avez? Vous savez, on peut jamais savoir à l'avance. Hein. Il faut savoir.
Vous êtes sûr de vous?
Alors là-dessus, un peu moins. Je suis sûr de mon programme.
Ouais.
Maintenant, est-ce que je suis sûr de convaincre? Ça, c'est une autre chose.
Merci aux auditeurs et auditrices de Radio Sud. Merci à Jean-François David et à Biastre. Biastre, merci beaucoup. Vous avez un mot à dire?
Merci Angelo, merci Jean-François, et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ça m'a fait très plaisir d'être là. Je ne savais pas, ça a été une invitation assez surprise, puisque j'ai découvert ça il y a un peu. Mais merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'espace de parler de cette création nouvelle et de parler de l'humain, qui pour moi est le centre aussi.
Jean-François Daville.
Merci Angelo, merci.
Un mot de la fin ?
Le mot de la fin, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, je vous invite à lire mon livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur mon site internet, David Municipal.
Vous êtes heureux aussi avec le sourire. N'oublions pas qu'on peut perdre les personnes qui nous entourent du jour au lendemain. Le grand sourire, vivre les choses légèrement et avec bonheur, ça change tout.
L'émission sera disponible en podcast. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à toi.
Béatre, à la prochaine.
Merci, oui, à très vite. Merci Jean-François.
Merci beaucoup.
Laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir, aux belles, on ira partira, toi et moi, où je sais pas. Et que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent, aux belles, on ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. N'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. Oh, j'ai tant obéi, si peu choisi, petit, et le temps perdu me dévore. On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs, les fumées, les alcools et les calmes en cuirasse. Tu me crois, belle.